d'une petite boîte fermée qui nous semble hermétique, on a l'impression que le monde se résume à ça. Et dès qu'on explore ou qu'on rencontre des gens qui sont allés au-delà de la boîte et qui nous expliquent comment c'est à l'extérieur, c'est fou parce qu'on commence à avoir conscience d'autres choses.
Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre, se reconquérir.
Parce que les femmes sont fortes.
Celles qui osent.
Bonjour Amel Zaïd, je suis super contente de te rencontrer un dimanche matin. Donc, tu es animatrice radio sur Move. Tu es aussi journaliste depuis plus de 10 ans. Tu as aussi sorti un livre qui a en tout cas eu un prix, j'ai cru comprendre, sur Georges Clooney avec Maëlle Brun. Voilà, donc j'aurais aimé en savoir évidemment davantage sur toi. J'ai lu que tu avais beaucoup d'humour sur Twitter, tu relais des titres. Enfin, ça m'a fait hyper rire. Voilà, je pense sincèrement qu'il est plus facile de résilier son contrat avec le diable que son contrat avec SFR.
C'est toujours en cours.
Ah, c'est toujours en cours.
J'ai envoyé 2 lettres contre accusé de réception et ils ne veulent pas me lâcher la grappe.
Bon, SFR forever. Voilà, le coup de je viens de comprendre un truc, vous mettez rustique après vos tartes quand elles sont ratées, mais tellement ça me parle. Donc voilà, tu vois comme quoi j'ai relié comme des infos fascinantes de ton.
Bravo.
Les meilleurs tweets, hein, vraiment.
Et j'appelle ça du travail d'investigation, Violaine.
Ah, mais vraiment, vraiment. La grande chercheuse qui est en moi a aussi lu que tu étais fondatrice du podcast initiatique Spiritualista.
C'est ça, oui.
Hâte de donc avoir plus sur ta. Alors, raconte-moi tout. Je veux tout savoir de ce qui est entendable sur Amel Zaïd. Et à toi, c'est parti.
Alors, Amel Zaïd est arrivée sur cette planète Terre un 26 novembre neigeux à Saint-Étienne. J'avais pas de bonnet. Du coup, on m'a mis une chaussette en laine sur la tête quand même. Hein. Ça, c'était une arrivée en fanfare, sans style, mais avec humour. Et par où commencer ? Je sais pas, Violaine.
T'es née donc, tu m'as dit à Saint-Étienne.
Je suis née à Saint-Étienne, oui. J'ai 38 ans. Donc Saint-Étienne, tu vois, c'est une ville minière assez sombre. Mais ce qui est incroyable, moi j'y ai vécu jusqu'à mon baccalauréat. Et quand on vit dans cette ville-là, on n'a pas conscience de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Ouais. De comment sont les villes en dehors de Saint-Étienne. C'est-à-dire que notre cadre de référence, ça devient notre réalité. Et je me souviens que je suis allée à Lyon avec une amie pour faire les boutiques, mais hyper tard, je ne sais pas, je devais avoir 16, 17 ans. Et là, je me suis pris une petite claque, je me suis dit « mais oh !» Ah là là, il existe un monde en dehors de Saint-Étienne, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Saint-Étienne, c'est dans une cuvette en fait. Ouais. Où que tu sois à Saint-Étienne, quand tu es en voiture, tu dois monter, c'est pentu. Enfin, quand il y a du verglas et de la neige, c'est impraticable. Moi, je me rappelle de soirs ou des soirs d'hiver où tu finis le lycée à 18h et que tu dois rentrer à pied chez toi et que tu as que des dénivelés et que c'est verglacé. Mais moi, je me suis tapé des crises de fou rire, mais littéralement à faire pipi dans mon pantalon quand tu vois tes amis qui glissent, mais à plat ventre sur les pentes. Mais c'était hystérique. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on voit que notre cadre de référence, ça devient notre réalité, c'est que c'est pareil avec les champs de conscience, en fait. Que quand on a conscience que d'une petite boîte fermée qui nous semble hermétique, on a l'impression que le monde se résume à ça. Et dès qu'on explore ou qu'on rencontre des gens qui sont allés au-delà de la boîte et qui nous expliquent comment c'est à l'extérieur, eh ben, c'est fou parce qu'on commence à avoir conscience d'autre chose. Et quand on a conscience d'autre chose, on voit autre chose. Et on est dans ce qu'on appelle une expansion de réalité et aussi de conscience. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai fait mes études, jusqu'à mon bac, j'étais à Saint-Étienne. Ensuite, je suis allée étudier à Lyon. Littéraire, parce que le langage mathématique et scientifique, c'est vraiment un truc mais qui ne me parle pas. Mais moi, j'ai passé mon enfance à avoir des cours particuliers de maths. Ma mère vraiment me payait des cours qui coûtaient très cher en plus. Moi, je suis issue d'un milieu super modeste. Mes parents sont ouvriers tous les deux. Et c'est simple, moi j'ai été la première de ma famille à avoir le baccalauréat. Donc voilà, c'est vraiment...
T'as combien de frères et sœurs ?
J'ai une petite sœur qui a 6 ans et on se ressemble vraiment beaucoup. Et la plupart des gens... C'était son anniversaire là, le 27 décembre. Et donc, sur Instagram, je lui ai fait un petit shout-out avec nos photos d'enfance et tout. Et les gens pensent qu'on est sœurs jumelles. Et on a même une chaîne YouTube avec ma sœur qui s'appelle Amel et Ilem, où on parle de wellness, de bien-être au naturel. D'ailleurs, chaîne qu'on a un petit peu abandonnée là, depuis les événements sanitaires, mais qu'on va reprendre parce que... En fait, on a commencé cette chaîne YouTube en se disant, si on a 100 abonnés et qu'on s'adresse à 100 copines comme nous dans le monde entier, on sera trop contente. Et là, il se trouve que la chaîne, elle a presque 24 000 abonnés. Donc voilà, faut qu'on la reprenne en main. Et ce qu'on adore faire, c'est sensibiliser les gens au sucre. Vraiment, moi, ça a été un espèce de cheval de bataille parce qu'en fait, dans le développement personnel, l'alimentation, c'est hyper, hyper important. Et avec ma sœur, on a commencé à se connecter à nous, à notre corps d'abord, avant de se connecter à notre âme et à notre esprit, par l'alimentation, en remettant en question la façon dont on s'alimente. Donc ça a été laisser tomber par exemple tout ce qui est produits laitiers, même si j'adore encore le fromage et que c'est très compliqué pour moi, mais stopper le lait. Ma sœur est végétarienne depuis 6 ans maintenant. Et donc... Moi, je l'ai été 3 ans. Après, je suis revenue un peu ce qu'on appelle les flexitariens. Quand j'en ai envie, je me dis que c'est mon corps qu'on a besoin, donc je m'écoute et je prends un peu de viande. Mais en fait, quand on remet en question son alimentation, on remet en question beaucoup de choses, mine de rien. Parce que l'alimentation, c'est aussi le lien à la mère. C'est des habitudes, c'est du réconfort, c'est lié à la sphère émotionnelle. Et finalement, on se met à s'écouter, à s'entendre parler et surtout à se connecter à nos besoins. Et quand on a envie de manger un Kinder Bueno, est-ce que c'est quel corps qui parle ? Est-ce que c'est mon corps émotionnel ? Là, j'ai besoin de réconfort. Et comment je peux trouver ce réconfort ailleurs, en fait ? Et je trouve ça super cool dans une évolution spirituelle ou développement personnel de commencer par l'alimentation.
Ah ben oui, nourrir pas seulement le corps, mais aussi le cerveau, c'est vrai. Alors du coup, ta sœur, t'as 6 ans d'écart avec
elle. Oui, elle est plus petite. Donc, en fait, on s'entend très, très bien, mais on est très différentes. C'est-à-dire qu'elle, c'est un carré et moi, je suis un rond. Et du coup, c'est assez rigolo.
C'est complémentaire.
Ouais. On est totalement complémentaires.
Et donc, ouais. Vous entendez bien depuis l'enfance, quoi.
Alors, non, parce que quand on a 6 ans d'écart, quand moi, j'en avais... 16 et qu'elle en avait 10, elle piquait mes vêtements en cachette et en fait on était dans le même collège lycée, donc c'est à dire que moi je la croisais dans la cour de récré et je la voyais avec mes vêtements, avec mes sweats, avec mes pulls, et elle, je la voyais, elle se cachait et tout, puis à chaque fois je rentrais le soir, puis on tapait des crises, on était dans la même chambre en plus, et en fait on a commencé à vraiment vraiment bien s'entendre et à se manquer. Et du coup, par le manque, se crée l'envie d'être ensemble et d'apprécier les moments qu'on passe ensemble. C'est quand je suis allée m'installer à Lyon pour faire mes études et qu'elle est restée à Saint-Étienne et que je commençais à travailler dans les médias, la radio. Nos invités, c'était les artistes qu'elle adorait. Elle était fan d'eux et du coup, je la faisais venir à Lyon. Et elle venait à des concerts, elle rencontrait des gens. Et là, on a créé, on a tissé un lien vachement précieux et on passait ce qu'on appelle du quality time, quoi, ensemble. Donc, ouais. À partir de mes 18-19 ans, on est devenus vraiment, vraiment très proches, elle et moi.
Et après, toi, tu as dit que tu es partie faire tes études à Lyon. Tu as fait tout de suite de journalisme. Tu savais que tu voulais être journaliste ?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Je suis devenue journaliste grâce à des rencontres. Je pense que ma curiosité et mon côté spontané a plu à certaines personnes en rédaction à un moment donné. Parce que justement, je n'avais pas le formatage des journalistes, des écoles de journalistes avec, où tu es biberonné au fil d'actu AFP, les trucs comme ça. Moi, c'est vraiment pas ma réalité. En fait, moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était le divertissement. Moi, je voulais travailler en boîte de production. Je voulais créer du contenu voilà, pour les télés, parce que j'adorais regarder la télé. Pour moi, la télévision, ça représentait tout ce que j'adorais. La créativité, le fait de travailler avec des amis et de s'épanouir, de dire voilà, ce qu'on pense, qu'on ressent et de faire le show. Et moi, ça me parlait, en fait. J'ai un côté qui est très réservé, qui est à la fois très timide, et j'ai aussi un côté qui est très explosif, très feu. Donc, pour moi, la télé, ça me permettait de gérer voilà, ces deux polarités.
Tu regardais ouais. beaucoup la télé quand tu étais enfant,
ouais. Bah ouais, on n'avait pas Internet, on n'avait que la télé, pas assez d'argent pour faire des activités extrascolaires. Mes parents qui travaillaient beaucoup, moi qui étais souvent seule à la maison et qui gardais ma sœur. Donc, la télé, ouais, c'était ma meilleure amie, quoi. C'était
vraiment. Tu regardais quoi comme programme ? Tu regardais de télé-réalité, tout ça ?
Non, mais il n'y avait pas ça encore, la télé-réalité. Pour moi, la première saison de Love Story, j'étais déjà. Je venais d'arriver à Lyon pour faire ma première année de fac. Donc, ça arrivait, ouais, tard. Ouais, j'ai 38 ans, Violaine. ouais, ce que je regardais à la télé, bah, c'était le Club Dorothée, biberonné voilà, au dessin animé. C'était aussi des séries comme le Cosby Show, Une Nounou d'Enfer, ça, tous les soirs à 20h, on se retrouvait, ma mère et moi, et on regardait ça à la télé. Et après, j'allais dormir, donc c'était un petit peu le dernier highlight de la journée, tu vois. On finissait sur ça. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit souvent que ce qu'on lit ou ce qu'on regarde l'heure avant d'aller dormir nous programme finalement pendant toute la nuit, et on le digère et voilà. Et je me dis que pendant des années, je me suis endormie avec ces gens-là, en fait. Juste après, tu vois, avoir maté ces émissions-là, ces sitcoms-là. Donc, c'est assez rigolo.
Du coup, t'as regardé toutes ces choses, mais tu t'es dit un jour je veux travailler dans la télé, en fait.
Voilà, dans le divertissement, voilà. Il y avait toutes ces émissions, là, la brosse à dents, Nagui, tous ces trucs-là. Et moi, je voyais et je me rendais compte qu'en fait, pour produire ces shows-là, je voyais la fourmilière derrière. Je me disais, je veux faire partie de ça, en fait. Je veux développer ces idées, créer la magie télévisuelle. Donc, j'ai fait des études de communication des médias à Lyon. Pendant 3 ans, j'ai eu ma licence et ensuite, j'ai voulu commencer mon Master 1 en me disant, ah, ça sera moins théorique, je vais enfin pouvoir m'éclater, mais on n'était encore que sur de la théorie. Et quand j'ai commencé mon Master 1 à Lyon, je me suis dit, ah non, c'est pas ce que je veux apprendre, ça me gonfle et tout. Donc, je me suis débrouillée, je vais même dire me démerder pour avoir un stage chez M6 à Paris, en plein milieu d'année, pour en fait cracher mon année à Lyon, me permettre d'aller m'installer à Paris, avoir en fait voilà, un vrai truc à dire à mes parents, genre oui, je vais en stage. Mais en fait, c'était pour m'installer. Donc, je m'installe à Paris. Je débute ce stage dans une boîte de prod qui appartenait à M6. Donc, je suis dans l'immeuble d'M6. C'est le boulevard Charles de Gaulle où il y a M6, où il y a RTL. Enfin, pour moi, j'étais dans mon rêve en fait. Je rentrais voilà, dans ce qui résonnait dans ma tête pendant des années. Et là, j'y accédais. Mais là, c'est la douche froide. Parce qu'en fait, je me retrouve dans un contexte nid de vipère. Moi, j'arrive. Donc, je suis Amel, un peu la paysanne mal dégrossie qui débarque à M6. Où il n'y a que des Parisiens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait les grandes écoles de journalisme. Et moi, j'arrive en stage. Et là, je me prends. Mais je pense que parfois, la vie veut nous mettre face au pire d'une certaine réalité pour nous montrer et en fait pour nous questionner et nous demander est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, est-ce que tu as vraiment envie de travailler dans cet environnement avec ces gens-là. Enfin, moi j'ai été face à de la méchanceté, limite un peu de racisme, j'ai été ostracisée, on me demandait de prendre une guitare et de faire le tour des bureaux en chantant une chanson pour récupérer de l'argent pour ensuite aller acheter au casino en face de l'alcool pour faire des pots. Et si je refusais de le faire, on me disait « Ah, mais toi, t'es pas corpo, non, mais on va pas te garder. » Enfin, c'était lunaire. C'était absolument incroyable. En plus de ça, vu que j'étais tellement crispée que c'était mon rêve, j'ai développé une hernie discale. Je me cachetonnais, c'est-à-dire que je suis arrivée et je prenais des anti-inflammatoires. J'ai découvert qu'à Paris, c'est génial, t'as pas besoin d'ordonnance pour acheter des anti-inflammatoires. Donc, je n'arrivais plus à marcher. J'étais enflammée. Je prenais des anti-inflammatoires. Je devenais l'ombre de moi-même, mais en un mois et demi. Jusqu'au moment où, un samedi matin, je m'en rappelle, je suis complètement bloquée du dos. Je ne peux pas sortir de mon lit. Je suis allée au bout de la résistance de mon corps. nerveusement, en fait. C'était les nerfs qui parlaient et moi qui avais envie de continuer. En plus, c'était ouf parce que ce stage, j'étais le larbin des journalistes d'M6. C'était les émissions un peu divertissement musical de Laurent Boyer où, en fait, les journalistes écrivent leurs sujets et les stagiaires doivent traverser l'énorme boulevard... Charles de Gaulle, qui est un boulevard qui a 4 voies, énorme. C'est un des plus grands axes parisiens. Et on devait le traverser plusieurs fois par jour, l'hiver, en plus, au mois de février, donc t'es bien crispé, pour aller récupérer les cassettes, les grandes cassettes qu'ils utilisent, en fait, pour faire leur sujet. Donc, c'est un travail d'archiviste, en fait. Mais en plein air, où tu traverses le boulevard avec, un pilier de cassettes, comme ça, et tu le fais plusieurs fois par jour. Et donc, j'avais besoin de me cachetonner pour pouvoir marcher, parce que je n'étais pas assise toute la journée derrière un bureau. Non, c'était physique. Et les deux pharmacies étaient juste en bas d'M6, donc c'était aussi pratique. Et donc voilà, je peux pas sortir du lit. Et donc je fais venir SOS médecin, ils me font une piqûre intramusculaire, on m'explique que je suis enflammée et que c'est assez grave, mine de rien, parce que je suis jeune et que c'est bien attaqué. Donc je me dis ok, je vais redescendre me reposer à Saint-Étienne chez mes parents. Mon père vient, je ne pouvais pas prendre le train. Parce qu'en fait, les vibrations du train, ça me faisait des décharges électriques. Je ne pouvais pas, en fait. Je devais rester que toute droite, comme ça, dans un axe. Et même les torsions, c'était insupportable. Bref, ça a été une épreuve. Je me suis dit, c'est marrant. J'ai l'impression que Paris, c'est un peu comme le ventre de la baleine. M'a pris, m'a mangé, m'a croqué et m'a rejeté dans l'eau. C'est comme si, énergétiquement, je n'étais pas assez aguerrie pour me mettre sur la vague de l'énergie de Paris. J'étais encore trop verte, en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti déjà à l'époque. Intuitivement, je me suis dit, ah, l'océan me rejette, je ne suis pas prête. Donc, je redescends à Saint-Étienne, je me repose pendant un mois et demi avec des piqûres intramusculaires dans les seufs, tous les matins, des décontractants musculaires, mais qui me font baver. Je suis une loque, en fait. Parce qu'en fait, on m'a dit, écoute, si avec du repos, au bout de 6 semaines, ça se résorbe, c'est cool. Sinon, c'est l'opération. Et j'avais pas envie, quoi. Et ça va mieux avec le temps. Et je remonte à Paris en traînant la papate, quand même. Je me rappelle, je suis dans le métro et j'habitais à Pyrénées, dans le 19e arrondissement. Et donc, j'arrive et je reprends un peu de la force, mais je me dis, je laisse tomber ce stage, je laisse tomber les boîtes de prod. Je me dis, je vais faire autre chose. Et je m'intéresse à Internet, je m'intéresse aux médias courts. Et je me dis, j'aimerais bien proposer au site Internet des contenus courts, des vidéos courtes, et créer ces contenus courts. Voilà, plutôt que m'attaquer à la grosse machine télévisuelle avec les enjeux d'ego et d'argent qui font que les gens deviennent des teignes, je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus accessible. Et là, à travers un dîner qui s'appelle, c'est un club qui s'appelle le Club Averroès, qui a pour objectif de promouvoir les minorités visibles dans les médias français, je rencontre quelqu'un en fait qui m'intègre à un de ces dîners. En fait, j'avais fait une formation d'audiovisuel qui s'appelait comment s'appelait cette école ? C'était du media training. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis inscrite pour faire du media training. C'était vraiment super cool. Et à travers cette école où il y avait beaucoup de diversité, j'ai connu le Club Averroès et le directeur de l'école qui faisait les media training. M'a intégré un de ces dîners. Et c'était un dîner où il y avait le big boss de Prisma Press à l'époque, qui était l'ancien PDG de Hermès, qui présentait l'évolution de ces nouveaux médias. Donc on est là, on mange, on est dans un resto qui est privatisé pour l'occasion, on doit être une trentaine de personnes. Et moi, je ne connais pas les règles de ce jeu-là, en fait. Donc moi, j'arrive déjà, je suis un peu... En fait, c'est là où c'est cool que... En fait, on se rend compte que bien souvent, la naïveté, la pureté nous met sur le bon chemin. Parce qu'en fait, on n'est pas parasité par le mental et l'ego. Et il se trouve que le naturel va plaire parce que c'est une donnée qui est très rare dans ces milieux, mine de rien. Et donc, moi, j'arrive et donc dans ce restaurant, l'invité et ses associés n'est pas encore là. Je ne sais même pas à quoi ressemble le mec, en fait. Moi, j'arrive, je ne me suis pas documentée, je n'ai pas amené de CV, je suis juste là... avec ma bite et mon couteau, quoi. Donc, j'arrive dans le resto et je suis là en découverte, quoi, vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, derrière moi, c'est l'affiche d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai l'impression que j'incarne un peu l'énergie d'Alice un peu dans tout ce que je fais. Quoi. Là, j'ai vu un tunnel, je suis rentrée dans le tunnel et je découvre vraiment dans la temporalité la plus pure ce qui s'y passe. Et donc, voilà, je vois que les coalitions, les gens se connaissent déjà, ils sont déjà organisés, voilà, ils discutent entre eux. Et moi, j'arrive, je suis solo. Et je me mets à une table où il y a encore de la place. Il se trouve que cette table-là, bah, c'était la table de l'invité. Sauf qu'il y a 6 places et que le gars va venir avec son assistante. Donc, il reste des places. Donc, moi, je me mets là, quoi. Mais je n'ai pas conscience que c'est cette table-là. Et donc, le mec arrive, qui s'appelle, c'était Fabrice Boé. Donc, Fabrice Boé arrive avec son assistante, s'installe et je suis en face de lui. C'est-à-dire que moi, je vais dîner en tête-à-tête avec le big boss du groupe de presse Prisma Presse, voilà quoi. Ancien Hermès, c'est lunaire, mine de rien. Et donc, pendant le repas, entre chaque plat, il prend le micro, il expose voilà, les jobs qui vont bientôt être créés, l'évolution de son entreprise. Pendant les interstices de ses prises de micro, bah, je suis en tête-à-tête avec lui. Et c'est lui qui me parle, en fait. À l'époque, je fumais des cigarettes qui étaient noires et qui avaient un goût de vanille. C'était un peu comme des chichas portatives, en fait. Et à l'époque, on pouvait en plus fumer dans les restaurants. Et donc, il voit, il s'interroge, il se dit, mais c'est quoi ces cigarettes, en fait? C'est quoi? Et on parle de ça. Mais vraiment, j'ai ce truc où je ne prends pas de pincettes, en fait, quand j'ai interviewé. Peu importe qui j'interviewe, qui je rencontre dans un ascenseur, qu'il soit connu ou pas connu, je m'adresse de la même façon aux gens. Et donc, je lui parle et je rigole avec lui, même son assistante à côté, se dit, mais ils doivent se connaître déjà. Et on discute d'une façon très naturelle et spontanée, et on rigole même ensemble. Et avant de partir, plein de gens distribuent leur carte de visite et leur CV. Et moi, je suis juste là, j'attends que les gens se dissipent pour partir et prendre mon manteau et partir. Et là, il se baisse vers moi et il me dit, mais excusez-moi, on n'a même pas vraiment discuté. Il m'a dit, vous faites quoi dans la vie, vous? Et je lui dis, ben moi, je suis en dernière année à la Sorbonne, d'information et communication des médias. Et je lui dis, j'ai justement un stage de fin d'études à faire. J'ai un stage de 4 à 6 mois à faire en entreprise. Et là, parfois, je ne sais pas, la grâce divine, une idée me tombe dessus. Mais c'est-à-dire une idée, je ne l'avais même pas en tête 30 secondes avant, en fait. Et je lui dis, j'ai une idée, justement, vous allez développer les sites internet de Gala, de Voici. Et je lui dis, moi, j'adore ces titres-là, je les lis depuis que je suis ado. Vraiment, j'adore ces titres-là. Et par exemple, pour Voici, je lui dis, j'aimerais bien qu'on crée un contenu ensemble qui pourrait s'appeler Stress et paillettes, où je suis une stagiaire qui va directement demander aux people des scoops, sinon elle va être virée. Et il me regarde et il me dit, mais c'est une superbe idée. Il me dit, je vous donne ma carte. Je n'avais pas la queue de cette idée 30 secondes avant Violaine.
Ah oui, c'est vraiment de l'impro totale.
Presse et paillettes, bim, je lui pitch le truc. C'est-à-dire que pendant ce repas, il a distribué une carte, parce que lui, il prend les cartes. Il me sort sa carte, il me dit, vous m'envoyez un mail dans les 2 jours et je le transférerai au chef de pôle. Voilà. Donc, t'imagines le chef de pôle de Voici qui va se faire transférer une idée par le big boss, il va bien le lire, en fait. Et donc, je fais voilà, tout ça. C'est-à-dire que je suis les directives. Donc, j'envoie mon CV avec zéro expérience dans ce domaine, mais je pitch l'idée. La seule expérience que j'avais dans les médias, c'est quand j'étais à Lyon, j'ai bossé pour une matinale sur Radio Espace. Et j'ai fait un stage aussi là-bas, voilà, avec le directeur d'antenne. Donc, c'était ma seule petite expérience. Et les médias training, voilà. C'est-à-dire que je savais comment parler à la caméra. Et je pense que ma vraie plus-value, c'est ma spontanéité, voilà, ma façon d'être, d'être complètement détendue. C'est-à-dire que voilà, moi, je vais parler, je vais être détendue, je casse un peu les codes. Et c'est finalement l'ADN de Voici, voilà, d'être un peu... irrévérencieux et de gratter un petit peu, enfin voilà, de chicoter quoi. Et donc, c'est mon tempérament naturel. Et donc, voilà, donc, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Voici, où justement, j'ai développé Stress et paillettes, où j'ai fait des interviews dans les soirées People, où voilà, j'ai commencé à prendre confiance et même à toucher au montage, à l'editing, des choses comme ça. Et on m'a aussi appris à écrire. C'est-à-dire que j'ai rencontré un mentor un mec que j'adore, qui s'appelle Christophe Caron, qui était le rédacteur en chef de Voici.fr à l'époque, qui maintenant travaille chez Slate, qui est vraiment quelqu'un qui m'a appris le métier, qui m'a appris à écrire des articles, parce qu'après j'ai basculé du web au print, au magazine papier. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans une équipe où finalement je me rendais compte que l'idéal que j'avais, moi j'adore travailler avec une bande et me marrer du matin au soir. C'est mon moteur en fait.
Tu peux pas travailler solo.
Alors là, par exemple, tu vois, l'expérience du solo, je l'ai avec mon podcast. Après, j'interview des gens, donc je suis en interaction. Mais après, le gros du travail, c'est moi seule, voilà, qui écrit mes questions, qui fait mon montage, qui fait mon editing. Tu vois, la communication sur les réseaux sociaux, ça prend aussi un temps monstre. Commencer à animer aussi une communauté, tout ça, c'est du temps. Et finalement, t'es seule, même si t'es en interaction avec une communauté, tu vois. Quand tu travailles, voilà. Et pour moi, là, je sens que je commence à arriver au bout de ce que je peux donner seule sur le podcast. Et je vais commencer à intégrer, voilà, d'autres personnalités, voilà, d'autres gens qui vont m'aider. Parce que sur le traitement du son, les choses comme ça, voilà, il y a des ingé sons, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, et pour professionnaliser aussi le contenu. Donc oui, mais sinon, par exemple, à la radio, en fait, j'adore avoir un projet que je peux mener solo, mais tout en ayant une activité où je retrouve mes potes, en fait, pour travailler. Donc, travailler à Voici, ça m'a vraiment permis de me connecter à ça et de me dire, ah ouais, oh, c'est tellement agréable de débarquer le matin et de se taper des barres de rire et de raconter nos vies et en même temps faire du travail de qualité parce que les deux se nourrissent, en fait. C'est parce qu'on se sent bien dans son travail qu'on va vraiment travailler sans compter les heures et qu'on va y donner notre cœur et notre âme parce qu'on a envie que tout se passe bien. Donc ça, c'est super.
Donc après cette belle expérience, ouais. Parce que là, tu es en stage à ce moment-là.
Ouais, j'étais en stage rémunéré. Donc ça, c'était super cool et valorisant aussi pour moi parce que voilà, j'ai négocié ça et je l'ai obtenu et j'étais trop ravie. Donc suite au stage, donc j'ai eu... c'était plusieurs CDD pendant 2 ans et demi. Donc, plein de CDD. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... une rupture amoureuse qui m'a vraiment brisé le cœur. C'est-à-dire que j'étais tellement triste que cette histoire d'amour se termine que même Paris, pour moi, était associée à trop de souvenirs avec cette personne. Donc, j'ai voulu quitter Paris, voilà. Il y a eu plein d'éléments, plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit stop.
T'avais quel âge quand t'as décidé ça ?
J'avais 26, 27 ans, ouais, autour de ça. Et ça a été très, très dur à vivre. Clairement, je pense je peux labelliser cette période avec une période de dépression totale, de perte de repères, voilà, tu te connectes à ton ombre, quoi, à ta solitude, à ta tristesse la plus absolue. Et donc, j'ai quitté Paris pour couper. Je suis descendue à Saint-Étienne. Alors là, c'est le truc à pas faire, en fait. Redescendre chez ses parents quand on est en dépression, rupture amoureuse, qu'on a connu un peu Paris et voilà, tout ce qu'il y a de magique ici. Mais c'est la pire chose à faire, en fait. Lâcher son appart, son job, lâcher tout. C'est... Voilà, il y a des trucs qu'il faut vivre dans sa vie et je pense que finalement, on y gagne parce qu'en fait, j'ai rétrogradé et ensuite, on m'a proposé de travailler pour le magazine papier. Donc en fait, j'ai fait un peu en arrière, émotionnellement, Et quand je suis revenue professionnellement, j'avais fait un pas en avant parce qu'on me proposait quelque chose. C'est un peu comme si on s'était rendu compte que j'étais un très bon élément dans une rédaction et que c'était dommage de me perdre. Donc, on m'a fait revenir en proposant quelque chose de beaucoup plus cool, mieux payé, sympa, quoi.
Donc, à Saint-Étienne, tu n'as pas retravaillé du coup ?
Non, j'étais au Pôle emploi à Saint-Étienne. C'était un reset, voilà, un global reset. En plus, c'est marrant parce que j'ai profité de cette période-là. J'avais un espèce de rêve intérieur. C'était de travailler dans la communication au Maroc. Un peu, tu vois, ce côté, le colon inversé, tu vois. Mon père est marocain, tu vois, de me dire, je vais apporter ma connaissance et mon cerveau brillant à mon pays. Et en fait, tu vas au Maroc quelques semaines et tu te rends compte que bah, les salaires sont très, très, très bas et qu'en fait, ce que tu as, l'idéal que tu as dans ta tête, tu ne peux pas là, le faire en si peu de temps. Et puis même ton mindset, c'est autre chose, quoi, vivre au Maroc. C'est cool quand tu vas pour des vacances, quand tu sais que tu vas rentrer en France à un moment donné, mais y vivre au quotidien, c'est autre chose, quoi. Et donc, désillusion, double désillusion. Ensuite, on m'appelle à Paris, je fais « Hey, je reviens !» Je reviens. Pendant un temps, le gars avec qui ça s'était terminé, on se retrouve quand je rentre à Paris. Donc, je vis chez lui pendant quelques temps en attendant de trouver mon appart. Compliqué aussi, hein, très compliqué. Mais au niveau pro, c'est cool parce que je travaille pour un magazine papier. Je me rends compte que je suis valable, que je peux le faire, que je sais le faire et qu'on me fait confiance. Et donc, ça, c'est cool, tu vois, sur l'estime de toi-même. Voilà, tu reprends vie en fait, tu reprends des couleurs et c'est cool. Puis en plus, tu penses à d'autres projets. Ah, et si je pouvais écrire pour d'autres magazines, et si je proposais moi-même mes sujets, et voilà, tu es en expansion un petit peu et tu te fais confiance et tu y vas et ça c'est cool. Donc voilà, j'ai écrit des articles pour les In Rock, j'ai écrit pour d'autres sites, pour Gradia, pour de la presse féminine. Enfin voilà, j'ai un peu agrandi un peu mon champ de compétences et là je me rends compte que mon premier amour, ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai 12 ans, parce que j'ai été biberonnée au Libre Antenne, en fait. Je me dis, c'est la radio. Ah, j'aimerais tellement refaire de la radio. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que avant la radio, je vais faire de la télé. Un peu, voilà, parce que des choses vont se présenter à moi. Et toujours, en fait, quand j'ai un cadeau de la vie, j'ai l'impression qu'on me casse un peu mon délire. L'année où je fais de la télévision, où je suis en direct sur France 4 et où je parle un peu des phénomènes web, bah, j'apprends que ma maman a un cancer du sein. Donc, c'est-à-dire, je réalise toujours une partie du rêve, mais à côté, on me plombe. Ok, bon, bah, si c'est le jeu, je vais apprendre à gérer les polarités, c'est pas grave. Donc, c'était très particulier pour moi parce que j'étais en direct à la télé. Je savais que ma maman me regardait et qu'elle faisait ses chimios et que je n'étais pas auprès d'elle. Et donc, je suis là en train de vivre mon rêve de paillettes, voilà, de « Hey, on est là, on fait le show, je suis à la télé, machin ». Mais au fond de moi, quand je parle à la caméra, je parle à ma maman, en fait. Et donc, c'était très... Tu vois, même là, je t'en parle et j'ai encore les larmes aux yeux. C'était vraiment très, très compliqué à moi, tu vois, de gérer ce truc-là. Et donc, l'expérience télé, elle a duré quelques mois. Et entre-temps, voilà, j'allais voir ma mère. Je passais du temps avec elle. Mais ça m'a aussi connecté à un autre truc du... la mort, c'est un concept qui existe, qui est là, qui existe, et encore pire, la mort à travers la maladie, quand tu vois voilà, ta mère en train de perdre ses cheveux, perdre du poids, dégénérer en fait physiquement et émotionnellement, c'est très très compliqué. Là aussi, je pense que j'ai tissé un peu comme un mode survie, une carapace pour me dire, ok, le concept de la mort, c'est un truc qui me fragilise en tant qu'humaine. Comment je vais faire pour le gérer? Parce qu'en fait, voir ses proches mourir, c'est la loi de la vie.
La mort, comme tu dis, c'est quelque chose quand on l'a, enfin, c'est difficile à apprivoiser. Je pense qu'on ne s'y fait jamais.
Et je me rappelle le jour où elle me l'a dit, j'ai compris. En fait, le temps s'est arrêté. Il y a eu une pause qui a été faite. Et je me suis dit, OK, à partir de maintenant, tout va changer. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, comment gérer. En fait, c'est à ce moment-là que je ne sais pas si c'est une béquille. C'est marrant parce que quand on déconstruit, qu'on s'interroge et qu'on questionne tout le temps, on se demande si la spiritualité, en fait, mon vrai lien au spirituel et mon vrai lien au concept de Dieu, du tout, de la force ultime, enfin, on conceptualise comme on veut. Mais je l'ai vraiment développé à ce moment-là parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est totalement absurde si la vie se résume à ça. Si la vie se résume à vivre et mourir, je ne comprends pas le sens, en fait. Ça n'a pas de sens pour moi. Et j'ai commencé à vouloir comprendre comment le concept de mort est traité dans les textes sacrés. Que racontent les gens qui ont fait des expériences de mort imminente? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment c'était? Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Et en me documentant, en fait, je me suis dit, waouh, ok, il y a vraiment quelque chose d'autre. Et j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie de croire à ça parce que je sais que si j'y crois, ça va devenir réel. C'est comme ça que je vais tisser des liens. Et je savais que j'avais ma grand-mère qui est décédée il y a 15 ans maintenant, qui s'appelait Reya, qui est une grand-mère berbère tatouée des mains, le visage et tout. Et vraiment une femme très forte et à la fois très douce. Je sais que quand elle est partie, on a gardé un lien, elle et moi. Je sais qu'elle est là, parfois, il y a des signes, en fait. On communique ensemble à travers des petites choses, des signes. Le signe berbère, en fait, qui veut dire la liberté. Je sais que la liberté, c'est une énergie qui est dominante en moi. Quand on entrave mes libertés, je peux devenir totalement folle. Et là, ce qu'on vit, le contexte actuel, c'est vraiment challengeant pour moi, en fait. Mais ça me fait aussi grandir, parce que j'interroge beaucoup de choses sur mon identité, sur ce qui se passe dans le monde, sur le rapport des gens avec leur propre liberté. Qu'est-ce que ça induit ? Être libre, c'est aussi tester ses propres limites et aller au-delà, voilà, de ses peurs et tout ça. Et je pense que les gens ne sont pas tous prêts à accepter, à embrasser le concept de liberté. Tout ça pour dire qu'en fait, à ce moment-là, quand j'ai appris la maladie de ma mère, je me suis vraiment connectée au spirituel, au monde de l'invisible. J'ai compris, mais c'est là où je me suis rendu compte qu'aussi, le domaine des connaissances, que ce soit la science, la métaphysique, la physique quantique, la médecine, l'analyse des textes sacrés, que tout est interlié. Et j'ai aussi compris que quand on va à l'école, le système éducatif actuel, c'est un système de fragmentation. On a mathématiques dans une salle pendant 2 heures. On change de salle. On va étudier la philosophie dans une autre salle. On change de salle. On va utiliser la biologie. Et qu'en fait, depuis tout petit, on nous apprend à tout fragmenter, à tout éclater, à tout morceler. Là où tout est interconnecté. Et moi, je me suis découverte, mais une âme de rat de laboratoire, voilà. J'ai eu envie de lire, j'ai été boulimique de lire, maté des conférences, des TEDx sur la physique quantique, des choses. Mais quand je te disais que le langage mathématique et scientifique, c'était pas ma langue à l'école, mais là, ça l'est devenu, en fait, parce que ça avait du lien et ça créait un tout cohérent qui, pour moi, avait du sens. Et quand je me suis rendu compte que finalement, le monde de l'invisible, qui est un peu genre les fantômes, les ghosts, les esprits, les djinns, les machins, qu'en fait, sur un point de vue très cartésien, très métaphysique et très scientifique, ben, ça avait du sens. Mais je me suis dit, mais c'est fantastique. C'est pas juste farfelu, c'est réel. Et quand j'ai compris, voilà, j'adore aussi la langue des oiseaux. Par exemple, la mort. La mort, c'est l'âme hors du corps. Quand j'ai compris que ce qui était immuable et ce qui restait, le vaisseau intérieur qui est illimité et constant, c'est l'âme, et que la mort, c'est juste l'âme hors du corps, mais cette âme, cette conscience vive, cette énergie, existe toujours, et qu'en fait, notre corps physique, c'est comme une voiture, voilà, un véhicule qu'on prend et on vit quelques années avec et on change et parfois on a une Twingo, parfois on a une Lamborghini. Et en fait, comprendre ça, ça m'a beaucoup aidé à gérer le choc du concept qu'est la mort, en fait, qui est beaucoup diabolisé hein, dans nos sociétés, enfin en Europe, en Occident, moins en Orient. Moi, j'ai vu, ça a été un highlight aussi, il y a 3 ans, j'étais en vacances à Bali. Et j'ai vu comment ils gèrent les obsèques, comment ils gèrent la mort là-bas, mais ça a fait péter des verrous dans ma tête, en fait. Littéralement, enfin, pour eux, c'est une fête. C'est une fête, ils ont des habits de couleur, il y a de la musique, ils chantent, il y a des gâteaux, ils font des selfies. C'est joyeux parce que c'est passé d'un portail à un autre. Voilà, on accompagne l'âme du défunt.
Ouais, c'est pas une fin, l'âme va prendre d'ailleurs, d'accord.
C'est un passage et waouh, je me suis dit, mais moi je préfère en fait fêter ça comme ça, en fait c'est possible, on peut le faire. Mais j'adore, mais là j'essaye justement dans c'est marrant parce que souvent ce sujet là, la mort, c'est un sujet très tabou. Moi je sais qu'un repas de Noël, j'ai eu le malheur d'en parler et j'ai cassé l'ambiance et tout le monde en a voulu, alors que pour moi j'étais arrivée à un niveau où j'avais un peu transcendé c'était plus tabou, ni une angoisse, ni quoi que ce soit. Et là, j'essaye de m'approprier la mort. En fait, j'ai lu un livre fascinant là, pendant les vacances, qui m'a donné envie d'organiser mes propres obsèques. En fait, j'ai envie de transcender quelque part, voilà, comme un rite de passage, de m'accaparer le concept et de me dire, je vais organiser mes obsèques, je vais inviter 3-4 copines, on va aller dans les bois, on va être habillées, voilà, en noir, lunettes de soleil noir, on va théâtraliser cette scène, et je vais enterrer mon ancienne version, la version d'Amel qui avait peur de la mort, qui avait plein de petites peurs, voilà, peur de prendre le volant, peur de faire du scooter, peur de nanana, peur, tout, voilà, enterrer toutes mes limitations. La Amel, qui avait une coquille de limitations autour d'elle, est morte. Voilà. Et gloire à la nouvelle. Et j'ai pensé à ça la semaine dernière, je me suis dit, mais waouh, ça a l'air tellement fou et personnalisé, j'ai envie de le faire, quoi. Et j'en parle à une amie qui me dit, mais toi, t'as dû être viking dans une vie antérieure, c'est pas possible, il faisait exactement le même genre de cérémonie, en fait. Et je me suis dit, peut-être.
Voilà, tu as une âme de viking. Ton père est marocain et ta maman aussi, du coup, ou pas du...
Alors, mon père est berbère marocain et ma mère est algérienne. En fait, ce qui est drôle, c'est que là, je me suis ressourcée pendant 12 jours. J'étais dans les montagnes de l'Atlas et Atlas, Atlante, voilà, c'est un espèce de haut lieu énergétique. Et c'est vrai que chaque fois que je vais là-bas, je prends un bouquin que j'ai déjà lu et que je relis là-bas. Et ben, je peux te dire que mon expérience de lecture, c'est pas la même là-bas. Les mots, les choses résonnent différemment. C'est assez difficile à décrire. Mais je vis là-bas des expériences éthériques assez uniques.
Peut-être parce que tu n'es pas dérangée par d'autres sollicitations que la montagne.
Ouais, il y a une connexion à la terre, le lever de soleil, le coucher de soleil, la lumière n'est pas la même là-bas, mes rêves ne sont pas les mêmes.
Et pas tout plus oriental aussi.
Ah ouais, alors ça, mais waouh, c'est incroyable. Oui, c'est fou. Mais tu vois, ça aussi, c'est rigolo parce que quand j'ai posté sur Instagram, voilà, c'est pâtisserie orientale, c'est marrant comment les gens sont pétris aussi par la culpabilité. Et te renvoie, c'est ce qu'on appelle le miroir accusatoire, la propre culpabilité qu'ils ressentiraient s'ils avaient cette assiette, tout la renvoie. Alors, j'ai eu plein de messages de gens qui disaient, ah oui, bon bah, c'est 20 minutes à déguster et ensuite 5 heures sur un hélicoptère pour éliminer. Et du coup, moi, je leur disais, mais en fait, pourquoi accoler de la culpabilité ou de la honte ou du malaise à quelque chose de délicieux? C'est fou, hein, mais il y a un truc dans le conditionnement judéo-chrétien où on s'empêche de juste kiffer. De kiffer, mais kiffe en fait. Mais c'est quoi ton putain de problème? C'est incroyable, hein. C'est du non-sens, hein. On est d'accord. C'est les énergies de joie, d'amour et de plaisir. Enfin, tu sais, quand on dit le plaisir des dieux, tu vois, c'est justement les vibrations les plus hautes. Voilà. Et vu qu'on dans la vie, on attire ce qu'on vibre, bah si tu vibres, tu vois, un absolu, la béatitude, le plaisir, bah ton magnétisme va faire que tu vas attirer que ça, en fait.
Bien sûr.
Si tu vibres la honte, la culpabilité, là, c'est simple, hein, c'est les vibrations les plus basses, hein. Et quand tu vois que honte, culpabilité, jugement, c'est les vibrations les plus basses et que c'est bien souvent les vibrations qu'entretiennent les gens qui se disent pieux, qui sont dans des religions, des dogmes monothéistes. Mais tu te dis, mais on marche sur la tête, en fait. Et c'est la subtilité, la différence entre la religion et la spiritualité. Mmh. C'est vraiment ces deux mindsets, ces deux façons de voir la vie et de se voir soi-même qui sont opposées.
Quand tu as fondé ton podcast Spiritualista, du coup, tu as parlé à des médiums, etc. Toi-même, est-ce que tu t'es, voilà, t'es très férue de tarot, de savoir quel est ton avenir? Est-ce que ça, par contre, voilà, tu l'as expérimenté? Est-ce que le fait d'avoir fait ce podcast, ça t'a permis d'avoir des réponses sur ça?
Alors, en fait, ça s'est fait plus dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi, ça fait voilà, des années que je m'intéresse au chemin d'âme, au développement personnel, à tout ça. Et dans mon parcours, j'ai été amenée à rencontrer des thérapeutes, des médiums, des gens très lumineux qui m'ont beaucoup fait avancer et qui m'ont soigné l'âme, en fait, qui m'ont libérée de pas mal de peurs, de culpabilité. La culpabilité, pour moi, c'était un hot topic. Culpabilité, mais j'ai fait tellement de séances avec mon psychothérapeute quantique que j'adore, Pierre-Antoine, que j'ai interviewé dans Spiritualista. Mais avec Pierre-Antoine, mais on a tellement taffé sur la culpabilité, c'était de la folie furieuse, hein. Vraiment, hein. C'est voilà. C'est
culpabilité de quoi ?
Bah, en fait, c'est tout qui est interlié. Ça vient de l'éducation, ça vient du dogme religieux, ça vient de l'estime de soi-même qui fait que on culpabilise de faire des choses ou de dire des choses. Ou... Voilà, c'est tout ça qui fait que voilà, ça te crée cette croûte-là, cette espèce de coquille limitante qui t'empêche d'être toi-même, en fait. Et donc, voilà, j'ai rencontré ces gens que j'adore, mais vraiment, pour moi, c'est... Tu sais, il y a cette expression qui dit « le guide apparaît quand l'élève est prêt ». Et j'ai vraiment rencontré toutes ces personnes, toutes les personnes que j'ai interviewées dans Spiritualista jusqu'à maintenant, au bon moment dans ma vie. Et parfois, voilà, ça va être une copine qui va dire « ah, j'ai rencontré une fille qui est médium, qui peut rentrer en contact avec tes guides ». Voilà, nanana, et donc tu y vas par curiosité. Quand tu y vas, c'est toujours au bon moment parce que parfois le rendez-vous va être reculé. On ne sait pas pourquoi. Ah oui, c'était l'hiver dernier quand il y avait les grèves à Paris et tout ça. Mais le jour où tu y vas, c'est le bon moment parce que tu reçois des réponses qui sont tellement sur mesure et qui résonnent dans ton cœur. Mais en fait, on vit dans un monde que j'appelle un peu le monde à l'envers, en fait, où les valeurs sont inversées. On te fait croire que la santé, c'est la maladie, que la vérité, c'est le mensonge. En fait, pour moi, tout est inversé sur Terre. C'est très particulier. Et du coup, pour syntoniser ce qu'est la vraie vérité, c'est particulier de dire ça, la vérité ultime, c'est-à-dire la parole réelle et vraie dans ton cœur, il y a un travail à faire, il y a un formatage à faire. En fait, tu dois te déprogrammer, te reprogrammer, mais la reprogrammation, c'est même pas toi qui l'as fait, parce que tu te syntonises comme un instrument de musique sur une fréquence vibratoire qui est vraie. Et tout autour de nous, vraiment, ça paraît un peu... paranoïaque, la matrice, néo, machin, quand je dis des trucs comme ça, mais il suffit de s'extraire et d'observer de l'extérieur le monde dans lequel on vit et comment les gens interagissent entre eux. Bien souvent, je sais pas, moi, dans des couples, j'observe des couples autour de moi, mais ce que je vois, c'est tout sauf ce qu'on appelle de l'amour. Le concept de l'amour, il est totalement dénaturé. Bien souvent, on est sur des rapports de prédation. La drague sur les réseaux sociaux, sur Tinder, sur tout ça, c'est le capitalisme labellisé, l'amour, c'est tout sauf ça, en fait. Et moi, j'ai eu un gros travail de déconstruction de tout, mais même moi, mais même mes propres histoires d'amour. Vous savez, moi, j'ai été mariée religieusement et ça a duré 28 jours. Donc, je suis moi-même le cobaye de ce que je raconte. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'observer les gens et de les critiquer et tout ça, mais moi-même, j'ai été piégée dans ce qu'on labellise comme amour, qui est tout sauf de l'amour. Donc après, tu déconstruis.
Tu t'es mariée quand
C'était il y a trois ans. Il y a un truc qui est fou quand on tisse un lien intime avec Dieu, par exemple, tu vois. C'est qu'on touche, que ce soit dans nos prières, dans nos méditations, à un état de connexion, d'amour suprême, mais vraiment un truc incroyable, qui est tellement beau, qui est tellement pur, qui est tellement complet, que quand on revient dans son petit corps physique d'humaine et qu'on cherche à retrouver ce qu'on a ressenti ici, c'est pas simple. En fait, être connecté à Dieu, c'est à la fois un cadeau, mais insondable et merveilleux. Mais on a aussi l'impression qu'on se sacrifie sur certains plans, parce que vivre aussi l'expérience d'avoir un mari, d'avoir un compagnon, d'avoir un foyer, une famille, des choses comme ça, on a l'impression que c'est un peu fade. C'est bizarre, je sais que c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est à la fois... j'ai encore confiance. Amel, en arabe, ça veut dire espoir. Donc, j'ai encore de l'espoir. Je suis déjà tombée amoureuse. J'adore ce sentiment. C'est beau, c'est pur, c'est magnifique. Mais je crois que c'est très, très rare. Très, très rare. Et donc, voilà.
Est-ce que tu as envie, toi, T'as 38 ans, hein, c'est ça?
Oui.
T'as encore envie de fonder, je sais pas, moi, une famille, avoir un mari? C'est un projet pour toi ou c'est quelque chose qui finalement...
Alors, en fait, ce qui est, tu sais, quand je me suis séparée justement du mariage qui a duré 28 jours, ça a été pour moi, ça a été une énorme tristesse parce que tu sais quoi, au moment où je me rendais compte que ça y est, c'était fini cette histoire, je savais que je faisais certainement en moi le deuil aussi de la maternité. Parce que je me disais, moi, à chaque fois que j'ai une histoire d'amour et que je déconstruis et que je dois me remettre du choc émotionnel qui a été voilà, la rupture et toute l'histoire et tout ça, ça me prend tellement de temps. Non, mais je suis d'une lenteur incroyable. Tu sais, moi, ça me fait triper quand j'entends des copines qui me disent « Oui, non, mais c'est fini. Non, mais une semaine après, j'ai rencontré nanana. » Tu sais, moi, je suis « Mais oh !» Je suis « Mais comment tu fais? C'est quoi ton super pouvoir ?» J'en suis incapable. Moi, il me faut le double du temps de la relation pour m'en remettre, en fait. C'est de la folie furieuse. Donc, je me suis dit, je comptais un peu les années, je me disais, oh là là, disons que si je peux faire des gosses jusqu'à 42, 43 ans, je me disais, mais il y a de grandes chances que là, non seulement ça soit une rupture amoureuse, mais c'est aussi le deuil de la maternité. Donc, ça a été, j'ai pleuré à sanglots, tu vois, parce que j'avais vraiment le sentiment d'abandonner voilà, cette expérience de vie, dans cette incarnation en tout cas, parce que je me rassure toujours en me disant que dans plein d'autres vies, j'ai eu plein de marmailles, plein de gosses, plein de trucs. J'ai déjà expérimenté ça, voilà, mon âme sait ce que c'est, et que là, je suis ici pour faire d'autres trucs, et être libre, avoir du temps et du confort pour faire d'autres trucs. Donc, je me rassure comme ça. Tout ça pour dire, oui, que j'ai lu un livre en octobre, là, cette année, qui m'a bouleversée et qui m'a vraiment réconciliée avec cette partie de moi-même. C'est un livre qui s'appelle « La maternité symbolique », qui explique que depuis des millénaires, on a un peu cantonné les femmes à la maternité, voilà, avoir un enfant, voilà, et c'était la maternité physique d'engendrer une descendance. Et que la maternité symbolique, celle de créer des sociétés, des entreprises, de construire des bâtiments, voilà, c'était un truc réservé aux hommes. L'autrice de ce livre, j'ai adoré parce qu'elle expliquait qu'il y a plein de façons d'être mère. D'ailleurs, on le voit hein, dans la carte du tarot, la prêtresse, quand tu expliques cette carte-là, elle est enceinte, elle est au milieu de la nature, mais elle est enceinte d'idées, de projets, de matérialisation. Voilà, il y a le concept de mère, de matrice dedans. Et en fait, j'ai adoré, parce que je me suis dit, waouh, il y a tellement de façons d'être mère, en fait, sur cette planète. On peut faire grandir les âmes, on peut créer des expansions de conscience, élever les esprits. Élever un enfant, c'est... j'aime bien ce mot, élever, parce qu'on a l'impression que c'est des interdictions, Mais élever, c'est élever sa fréquence, élever sa conscience, c'est ça. Et on peut élever les âmes, et ça fait aussi de nous des mères. Et faire spiritualista, c'est une façon pour moi d'être une mère, en fait, de faire mon expérience de la maternité. Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai adoré ce livre, vraiment.
Oui, du coup, tu t'es dit, je vais être mère, mais peut-être différemment, en tout cas.
Exactement. Ma façon, voilà, ma façon d'être mère, oui. Et même parfois, je me rends compte que je suis une mère pour ma propre mère et mère pour mon propre père. Et j'adore, en fait, parce que je me rends compte que la fréquence, la vibration de la mère, je l'ai en moi, sans forcément voilà, passer par 9 mois de gestation. Et en même temps, j'ai ma nièce de 3 ans qui s'appelle Lia, qui est une force de la nature. Lia, en fait, elle est lion ascendant lion. Et Lia, en hébreu, ça veut dire lion. Et elle a une crinière de lionne. Donc, on est face à une personnalité incroyable. Et quand je la garde, voilà, une après-midi, ça dure 3-4 heures, mais je suis mais ravie qu'il y ait une fin à cette garde. Ah non, mais je suis trop contente, en fait. Donc, voilà, il y a ce truc-là où je me dis aussi, ah oui, l'expérience de la maternité dans le physique, c'est aussi un gros, gros challenge. Donc, j'ai un énorme big up et énormément de respect pour voilà, toutes les mamans, en fait. C'est... admirable. Vous êtes magique. Enfin, pour moi, c'est ce que vous faites. Gérer un foyer, un travail, un enfant, la charge mentale et tout ça. Mais je vous admire. Je ne sais pas comment vous faites. Ça me dépasse. Et Violaine, juste pour revenir sur... Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais le rapport au tarot, aux cartes et tout ça. Alors, tu sais, pendant des années, je ne me suis pas autorisée. Ça a toujours été un truc qui vibra en moi. J'ai toujours eu cet intérêt. pour les pendules, les cartes. En fait, ma mère, quand elle était plus jeune, juste avant de m'avoir, était très intéressée par l'ésotérisme, l'astrologie et tout ça. Moi, je me rappelle que petite, dans la bibliothèque, il y avait plein de livres sur ça, sur comment communiquer avec les défunts dans l'au-delà, des choses comme ça, tu vois. Ces livres-là étaient dans la bibliothèque de mon enfance. Et quand on s'est installé au Maroc en 88-89, pendant un an et demi. Donc, j'avais 7-8 ans, j'étais à l'école franco-marocaine là-bas. Et bien, à partir de cette période-là, ces livres-là, je ne les ai plus vus dans la bibliothèque. Et là, récemment, l'année dernière, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, mais attends, il y avait déjà ces livres-là quoi, qui m'intéressaient quand j'étais petite, et ma mère les lisait. Et aujourd'hui, elle n'a plus aucun intérêt pour tout ça. Et donc, je lui ai dit, maman, je n'ai pas compris en fait. Quand j'étais gamine, ces livres étaient dans notre bibliothèque. Tu as fait mon thème de numérologie, tu étais intéressée par tout ça, tu pratiquais et tout. Pourquoi ça a disparu ? C'est pas possible. On peut pas s'intéresser à ça et tout bazarder, en fait. Je parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas de vidéos YouTube, de gens qui parlent. C'était vraiment... fallait aller dans une librairie, acheter... Enfin, c'est notre démarche. Et elle me dit, quand je suis arrivée au Maroc, les nièces de ton père m'ont dit que c'était haram. Haram, ça veut dire que c'était péché. On ne s'intéresse pas à ces sujets quand on est dans l'islam. Donc, elle m'a dit, j'ai soit jeté, soit je les ai laissés en France, soit voilà, je m'en suis débarrassée. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça t'intéresse toujours ? Elle me dit, oui, bah oui, et tout. Je lui ai dit, bah, relis ces livres, c'est génial. Je lui ai dit, tu te rends compte, tu t'y intéressais tellement jeune, ça te parlait tellement. Je lui ai dit, tu étais déjà, en fait, une sorcière, tu étais déjà sensible à tout ça, tu vois. Je lui ai dit, tu vois, moi, j'ai craqué le code, voilà, plus jeune. En fait, moi, j'ai fait le truc inverse. C'est-à-dire que vu que j'ai compris que c'était péché et que dans l'islam, il ne fallait surtout pas s'intéresser à l'ésotérisme parce que c'était jouer le jeu du diable et sortir du dogme et de la lumière de Dieu. Donc moi, jusqu'à, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Quand je me suis séparée du mec là, avec qui ça, le mariage de 28 jours, quand je me suis séparée de lui, c'est ce moment-là où je me suis connectée à mon féminin sacré et où, voilà, je me suis dit, ça m'intéresse, je vais lire sur ces sujets, je ne veux pas qu'on m'interdise voilà, des lectures ou de la connaissance. Et c'est là où je lisais et ça faisait partie de moi. Et j'ai acheté un pendule, j'ai acheté des cristaux, j'ai commencé voilà, à explorer cette partie de moi-même que j'avais laissée un peu sous cloche. Et c'était hyper intuitif. C'est-à-dire que très vite, j'ai vu que j'avais du magnétisme. J'ai découvert que mon arrière-grand-mère soignait par les mains et qu'elle m'avait aussi transmis ce don-là, et que je pouvais le faire pour moi-même, pour mes proches, et j'ai pris confiance en moi, et voilà, c'est devenu un prolongement de moi-même, quoi, naturellement.
Et du coup, à côté de ça, là, je change complètement de cap, mais je voulais aussi que tu me parles du livre « At the People », etc., parce que du coup, ça me fait rire, parce que tu es faite de plein de passions et d'une appétence forte pour plein de choses, mais très différentes. Enfin, là, ce livre avec une ambition secrète de Georges Clooney, ça vient d'où ce projet ? Comment il est né ? C'est très people, ça.
C'est très people et en même temps très politique. En fait, j'adore interroger les enjeux de pouvoir, en fait. C'est marrant parce que moi aussi, je pensais comme toi, il y a encore quelques temps, je me disais, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être un espèce de, voilà, c'est pop-corn, ça va dans tous les sens. Alors, j'ai compris déjà ce qui justifie, je pense, ce côté en arborescence comme ça qui éclate. Mon système cognitif est tel que ma pensée en arborescence fonctionne comme ça et que je connecte. I connect the dots, tu vois, je connecte des points qui paraissent loin les uns des autres, mais vu qu'ils sont interconnectés, ils sont proches. C'est un peu comme ce qu'on appelle, tu vois, le degré de séparation entre les gens, tu vois. Il y a 6 personnes entre moi et le président des États-Unis, par exemple. Tu vois, il y a, voilà. On est connecté à tout le temps et il y a 6 personnes. Il paraît qu'avec Internet et les réseaux sociaux, ce 6 a basculé à 4. Donc, c'est hyper intéressant. Mais donc, du coup, quand je pense à quelque chose, pouf, c'est comme un pop-corn. Mais il y a du lien. Il y a un lien. Le livre sur Georges Clooney, c'est voilà, je travaillais dans la presse People, donc voici, oups. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je vois une photo, quand je vois quelqu'un, j'accède à un degré d'information qui n'est pas uniquement ce que je vois sur la photo. Sauf qu'à l'époque, il y a 10 ans, je ne pouvais pas expliquer ça à mes collègues. Genre, je voyais quelque chose et je voyais au-delà. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, avec George Clooney. Mais ça, je le comprends que maintenant. Qu'en fait, en voyant George Clooney sur des photos, dans des interviews, dans des choses, mon intuition avait accès à ce qu'on peut appeler ses archives akashiques ou voilà, il y a plein d'autres noms pour tout ça, mais c'est ses mémoires intérieures, en fait. C'est-à-dire que j'ai la capacité à voir l'invisible à travers le visible. Et quand je voyais George Clooney, j'avais toute une histoire qui se déroulait qui n'était pas la version officielle. En partant de ce postulat-là, avec Maëlle, qui est une amie journaliste, on s'est rencontrés dans la presse People. Alors, elle est géniale, et on est très complémentaires aussi, c'est que elle est très carrée, source, carrée, interview, verbatim, citation. Voilà. Moi aussi, j'ai ce côté-là, je le fais aussi, voilà, quand il faut justifier certaines choses et tout ça. Mais elle, voilà, c'est ça. Et moi, quand je lui déroulais l'histoire que je ressentais, et qu'elle captait aussi, on s'est dit, on a une histoire qui n'est pas la version officielle de George Clooney. Et en mettant les éléments les uns après les autres, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'actualité, le divertissement est morcelé. On nous envoie des informations un peu comme si on nous jette des miettes, comme ça. Et on n'a pas toute l'histoire. Vu qu'on nous nourrit comme ça, de temps en temps, avec une info, une photo, un truc, on prend, on est dans l'instant T, et on ne colle jamais les éléments les uns à la suite des autres. Voilà, on n'a pas toute la frise, toute la temporalité. Donc, ce que j'ai fait au départ, par exemple, on va prendre les relations amoureuses de George Clooney. J'ai pris une temporalité, donc une frise avec des dates et des événements. Voilà, Festival de Venise, Cannes. Et donc, je mets des dates et je mets lui avec telle ou telle meuf. Toujours des meufs inconnues, des serveuses, une catcheuse. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun lien. Donc, je me rends compte que ces nouvelles relations, elles pop-up, elles existent dans la temporalité uniquement une semaine, 10 jours avant un gros tapis rouge où il y a photographe, où il y a machin, où c'est genre le célibataire le plus en vue, machin, gentleman, pub Nespresso, l'incarnation du mâle alpha, beau gosse, tant grisonnante. Forcément, il lui faut une meuf à son bras, sinon ça ne tient pas la route, en fait, son concept. Et donc, je me dis, mais c'est totalement fabriqué, en fait. Rien n'est cohérent, rien n'a de sens, et tout est synchronisé. C'est toujours des relations de 2-3 ans. Je me dis, waouh, là, c'est des contrats. Je creuse, je me rends compte qu'à Hollywood, il existe des agences, justement, pour mettre des meufs dans les pattes des célébrités, juste pour les photos. Et donc, en fait, ce qui est au départ une intuition, un truc que je ne peux pas expliquer, je me rends compte que je peux l'expliquer, en fait, en documentation. Donc, c'est très rigolo de fonctionner comme ça, parce que c'est totalement intuitif, et on est au-delà du cartésien, en fait. On va essayer de lier l'intuition au cartésien. Et donc, on se met à écrire un livre où on comprend que George Clooney, depuis sa tendre enfance, que ce soit son lien à son père et tout ça, qu'il est formaté pour potentiellement devenir à un moment donné un président des États-Unis. Et nous, quand on arrive à la fin de l'écriture du livre, Trump annonce qu'il veut devenir président, et à la fin du livre, on dit que si Trump passe, il va totalement chambouler le rapport qu'on a au président, et que ça va devenir des présidents plus liés à l'image qu'aux compétences de politique. Voilà, parce que Trump, entrepreneur, argent, businessman, personnage haut en couleur, machin, c'était dit, si lui passe, il peut ouvrir la voie à des présidentiables qui vont être de la veine de George Clooney. Et d'ailleurs, quand on interroge les hommes politiques, quand on demande aux hommes politiques à quelle célébrité vous aimeriez ressembler, ils disent George Clooney. Voilà. Et dans le livre, on déconstruit toute la communication de George Clooney pour expliquer à quel point rien n'est là au hasard. Voilà, il y a tout son engagement au Darfour qui est passionnant aussi, parce qu'on se rend compte que c'est pas un truc qui l'anime. Enfin, George Clooney, il vit sur ses collines à Hollywood. Qu'est-ce qu'il en a à battre du Darfour, en vrai? Enfin, il ne sait même pas où placer sur la carte. Je pense que maintenant, si, mais à l'époque, non. En fait, l'idée, on réexplique voilà, pourquoi, à quel moment, que c'est son lien avec Nestlé, avec Nespresso, qu'il y a des terres à récupérer, en fait, ça devient un outil politique. Il devient ambassadeur d'une marque. Et donc, on explique à quel point les grosses sociétés deviennent beaucoup plus puissantes que certains pays. Et donc, voilà, en fait, c'est devenu un livre géopolitique très pointu, très bien sourcé, alors qu'à la base, on partait du divertissement. Et j'adore ce mélange des genres, en fait. J'adore, en fait, qu'on parte du people et qu'on aille et qu'on mette les mains dans le cambouis le plus absolu des enjeux géopolitiques. Moi, ça me fascine.
Moi aussi, tu m'as donné envie, et tu peux me spoiler, de lire ton livre. Vous l'avez coécrit ensemble.
On l'a écrit de manière à 50-50. On s'est réparti les chapitres avec Maëlle, puis ensuite il y a tout le travail de lissage où on fait en sorte de bien se relire pour que la mayonnaise prenne et que voilà, nos deux styles, enfin qu'on ne se rende pas compte, ah ça c'est Amel qui a écrit ce chapitre et celui-là c'est Maëlle. Donc ensuite on lisse tout et c'était super. Enfin, c'était écrire un livre, c'est laborieux, c'est incroyable. Enfin, lire son propre livre, mais des dizaines de fois pour le corriger, oh là là, c'est incroyable. Mais ça m'a donné envie là d'écrire mon propre livre. Là, cette année, je me suis lancée comme défi dans les 6 prochains mois d'en écrire un. Soit, alors là, il me reste 3 jours encore pour choisir lequel je vais écrire parce que j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. C'est soit Spiritualista, c'est-à-dire mon évolution à moi, mon évolution spirituelle dans un roman où voilà, je pars de la presse people au podcast et ce qui va se passer derrière. Donc voilà, soit j'écris ce livre-là, soit j'écris un autre livre qui là pour le coup va être, moi j'adore rire, j'adore me marrer, j'ai fait d'ailleurs un peu de stand-up pendant un an et demi, enfin j'aime trop faire rire et rire, c'est ma passion, et j'ai envie d'écrire un livre drôle mais où il y a du développement personnel dedans. En fait, j'aimerais écrire un livre sur une fille, une femme qui entame son chemin de développement personnel à travers les relations sexuelles, voilà. Et je veux l'appeler ma quéquette de sens. Donc, j'ai envie d'écrire ce livre, voilà, vraiment. Non,
ma quéquette de sens, tu viens de le trouver là maintenant ?
Non. Non. Je l'ai. En fait, j'ai envie d'écrire le livre parce que j'ai le titre. Et c'est souvent ça, en plus. Ben, ça, par exemple, c'est un gimmick de Press People. Souvent, on a un titre incroyable et on se dit, on attend l'événement pour pouvoir faire le titre, en fait, pour pouvoir sortir le titre. Donc voilà, là, j'ai le titre, ma quéquette de sens, et voilà, j'ai trop envie de décloisonner un peu tout le côté gnangnan développement personnel et partir sur vraiment un truc.
Écris les deux.
Oui.
Oh, ça va être super. Et avec ta sœur, vous avez fait, du coup, tu m'as dit, aussi un podcast.
C'est une chaîne YouTube, Amel et Ilem. Ouais, c'est une chaîne YouTube.
Et là, vous parlez vraiment de comment ça... Enfin, tu donnes des pistes, des éléments pour prendre soin de soi.
C'est ça. En fait, c'est que des soins et des conseils naturels. En fait, on a voulu, à la fin de la vidéo, soit on propose aux gens qui nous regardent un produit qui coûte 4 ou 5 euros. Donc, ça peut être le brossage sec du visage, tu sais. Donc, la petite brosse pour le liquide lymphatique, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher. En fait, on a voulu casser un peu le truc de la youtubeuse qui propose un produit à 20 euros, 30 euros, nanana, c'est génial, avec des marques, des cosmétiques, des trucs comme ça. On veut pas de produits chimiques. On veut qu'à la limite, ça soit de la beauté, mais que ça soit mécanique, en fait. Ça soit toi qui... Voilà. L'effort, 5 minutes par jour, tu te reconnectes à ton corps, tu prends le temps et tout, plutôt que juste être le côté un peu feignantise, voilà, tu mets une crème que tu as payée 150 euros, puis tu vas au lit. Non, prends le temps de te toucher, de te regarder dans le miroir, voilà, des choses toutes simples comme ça. Et donc voilà, donc on propose des conseils, des trucs qu'on fait nous-mêmes en fait, qu'on a adoptés, qu'on fait depuis des années et qui fonctionnent et qui nous font du bien. Donc on a voulu juste les partager avec un peu plus de gens, plus que voilà, nos cousines, nos copines et tout. Et puis ça a l'air de plaire, donc c'est super cool. Et il y a aussi tout le côté diététique aussi, voilà. Sur les questions du jeûne intermittent, le manger sans sucre, des choses comme ça, les cures de jus, tout ce qu'on teste et qu'on valide, on le partage.
C'est génial. Et là, en ce moment, donc, tu es animatrice radio sur Move. Ça va faire combien de temps, du coup ?
Que je travaille sur Move, ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans. Je reprends du coup demain. Là, on est en vacances 2 semaines. C'est tous les soirs, c'est en direct. C'est des débats sur les sujets d'actualité. Je suis avec 2 compères, Tanguy Blum et Jean-Pascal Zadi, et on débat sur voilà, tous les soirs sur un sujet avec les auditeurs, et ça dure 1 heure, donc c'est très cool.
Et à chaque fois, du coup, tu dois te documenter, parce que j'ai cru dire que les sujets étaient très varié, très divers.
Ah oui, totalement. Ah ouais, ouais, on va parler de du concept de liberté, est-ce qu'on a perdu nos libertés en un an à au dernier album de Justin Bieber ou de 13 blocs, vu qu'on est une antenne qui diffuse beaucoup, beaucoup de sons urbains et de rap. Donc ouais, c'est le grand écart, mais c'est hyper cool, quoi.
À chaque fois, tu dois te documenter pour pouvoir alimenter le débat, ou c'est vrai, c'est plutôt de la parole libre, où tu te sers
Alors, ce qui est super dans le casting de l'émission, c'est qu'on a chacun de notre rôle qui est lié à notre personnalité. Donc, il y a Tanguy qui est le meneur. Donc lui, il est vraiment sur le factuel, sur les chiffres, sur voilà, sur la data pure et les informations. Il donne pas son avis. Moi, je suis plus voilà en freestyle. Je prépare mes émissions tout le temps. Là, ça fait 3 ans que l'émission existe, donc les sujets, on les a un peu tous faits. Donc ce qu'on fait, c'est surtout réactualiser les sujets qu'on a déjà potassés. Avec aussi voilà, du délire, parce que les auditeurs arrivent aussi avec leurs informations et leurs expériences, et du coup, on réagit aussi beaucoup à ce qu'ils nous disent. Donc moi, je donne plutôt mon avis d'une façon voilà, totalement autonome et volontaire. Et JP qui est l'électron libre, voilà, qui apporte l'humeur, qui vanne les auditeurs, qui est juste lui-même. Voilà. Jean-Pascal qui a sorti son film cet été, qui était tout simplement noir. Et donc c'est hyper drôle parce qu'on le vanne aussi sur ça, parce qu'il est basculé dans le star system maintenant, donc on rigole et c'est super cool.
Tes prochains projets, c'est donc continuer sur Move, ton émission, ouais. Donc relancer ton podcast, enfin oui. Relancer ta chaîne YouTube avec ta sœur,
ouais.
Podcast, et oui. deux livres.
Il y a du boulot, il n'y a plus qu'à maintenant.
Et il n'y a plus qu'à. Et ben moi, je vais terminer par la fameuse question. Quelles sont les femmes pour toi qui osent, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent toujours? Tu peux me dire quelles sont les femmes qui toi t'ont marqué?
Alors moi, les femmes qui m'inspirent là à l'instant T et que tu pourrais aussi rencontrer, c'est Aurélia Monaco. Que j'adore, qui elle pour le coup elle m'inspire parce qu'elle a eu un changement de vie radical. Elle était juriste et là elle développe son activité dans le développement personnel. Elle fait des conférences, elle crée des ateliers, elle travaille énormément sur l'estime de soi-même, sur des choses vraiment super intéressantes. Elle fait aussi des soins Reiki. D'ailleurs, elle m'en a fait un là pendant les vacances. Enfin, j'ai adoré à distance. Elle m'a envoyé vraiment beaucoup, beaucoup de lumière et d'amour. Et donc voilà, Aurélia Monaco. Et une de mes meilleures amies qui s'appelle Jalila Levesque, qui travaille dans la publicité, qui est directrice de la com d'une grande agence qui s'appelle Fred et Farid et qui développe son activité. Elle a du magnétisme. Vraiment beaucoup, et c'est une passionnée par la beauté, et elle est en train de créer quelque chose qui est totalement révolutionnaire, qui s'appelle Magnetic Glow, où en fait elle utilise des cristaux et son propre magnétisme pour régénérer les cellules. Et donc c'est une expérience incroyable, je pense qu'on va pas mal en entendre parler en 2021. Elle a lancé son activité là il y a fin 2020. Elle a déjà eu toute la presse féminine qui a testé ses soins, Vogue, Vanity Fair, Elle. Et je trouve ça mais fantastique. Je trouve que c'est une façon de penser la beauté. Enfin, c'est le vecteur du futur, en fait. C'est-à-dire que ça annule pas le côté cosmétique, le côté crème, le côté... Mais là, on bascule sur l'énergétique, sur l'immatériel qui devient visible. Et je sais que moi, j'ai testé son soin quand elle... travailler sur son protocole et tout ça, et que vraiment, l'avant et l'après dans le miroir, on le voit, on le ressent. Et ce qu'on appelle le glow, c'est vraiment la beauté intérieure qui émerge à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut faire ce travail-là de mettre en lumière ses cellules, son énergie, pour qu'on puisse le voir à l'extérieur. Et voilà, donc Aurélia et Jalila, pour moi, c'est vraiment des femmes qui osent apporter des choses nouvelles. Ouais.
Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Cette interview vous a été proposée par le webzine Celles qui osent. Vous l'avez apprécié ? Alors, n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, Morgane Caroline pour le montage, nos invités pour leur temps et bien sûr, vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.